Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Attitude. Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com pour nous suivre partout en France. Vous écoutez Culture Sport, c'est votre émission chaque lundi à partir de 19h10. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Ric Lombard, manager de l'UBJ, et qui va répondre au feu croisé des questions de Dédé. Messieurs, bienvenue Dédé, bienvenue.
Salut Didier, salut à tous.
Comment vas-tu?
Ça va.
Ravi de te retrouver en studio.
Oui, bah, de temps en temps, j'ai des occupations un petit peu, comme Jean au niveau du rugby.
Voilà. Jean, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, messieurs.
Donc, ravi de t'accueillir. Tu es quelqu'un de connu dans le monde du sport charentais. Toutefois, pour nos auditeurs qui te connaîtraient pas très très bien, on va faire, si tu veux, un rappel de ta biographie, en fait. Et donc, ce que je crois savoir, pardon, c'est que tu es un Auvergnat à pure souche.
Ah, tout à fait, oui. Un pur Cantalou.
Parfait. Donc, tu es né à Aurillac?
C'est ça, voilà. Né à Aurillac le 12 février 1992. Et donc derrière j'ai commencé donc toute ma période scolaire sur le Cantal avant de déménager donc dans le Tarn sur Castres. Puis nous sommes revenus sur le Cantal où là j'ai pris ma première licence de rugby au stade Aurillacois, si je me rappelle bien, c'était 2005.
Tu avais quel âge donc à cette époque-là? 92, 8,
13 ans.
13 ans, voilà.
13 ans, voilà. Donc j'avais fait quelques petites interventions sur les catégories inférieures, mais j'étais plus footballeur dans mon jeune âge. Puis le combat, toute cette partie. On va dire dextérité physique, main, pied, m'a plus attiré que le foot, et à partir de ce moment-là, je l'ai plus lâché.
Il y avait des rugbymen dans ta famille?
Tout à fait. Donc j'ai mon papa qui a joué au rugby, mon grand-père qui a joué au rugby, mon oncle aussi, et derrière donc on a attaqué ensemble avec mon grand frère qui lui était rentré donc en cadet directement au stade Aurillacois donc à 16 ans et a fait une belle carrière derrière sur le top 14 pendant quasiment une quinzaine d'années.
Bah oui. Quel souvenir tu gardes du Cantal, de ton pays de naissance?
Le plus beau département de France.
Je partage ton opinion. Pour y avoir travaillé pendant 15 ans, donc...
Et là, on va se calmer quand même un peu.
Voilà, donc, une enfance heureuse. Et donc ensuite, donc, tu bouges et tu t'en vas, donc, toujours en Auvergne, rejoindre le Puy-de-Dôme avec l'ASM.
Tout à fait. Donc, mon frère était parti sur l'année précédente. Précédant la mienne, je pars sur Clermont donc à la suite d'un stage du top 100 donc avec la Fédération française de rugby où je suis repéré, je rentre au Pôle espoir du Sel donc en Corrèze et donc au centre de formation de Clermont donc à l'âge de 15 ans.
Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là donc quelles sont les compétitions que tu as disputées, les titres éventuels?
Mais on rentre donc dans la compétition cadet, donc c'est une compétition à 15 alors que sur la catégorie minime nous étions à 12 si je me rappelle bien. Donc c'est plein de petites choses qui changent, le fait aussi de quitter le cocon familial parce que c'est vrai qu'à 15 ans c'est toujours compliqué, donc j'avais la chance d'avoir mon frère sur Clermont, donc l'adaptation a pu se faire plus facilement et j'y suis resté donc pendant 7 ans où grâce on va dire au collectif et à la génération 91-92 on a remporté quelques titres de champion de France. Oui.
Lesquels? Oui, alors
champion de France Cravos en 2010, champion de France Espoir donc en 2012, Espoir 2013 et Espoir 2014.
2014 donc c'est ce qui marque la fin de ta présence à l'ASM. Ensuite tu vas bouger donc et te rapprocher de la Charente alors?
Tout à fait, j'avais donc...
Qu'est-ce qui t'a amené en Charente, Jean? L'amour?
Comme dirait Didier Pichot, tu vas pas partir à Vannes, il pleut tout le temps. Quand je vois la période qu'on passe en ce moment...
Et ça nous arrive à nous aussi.
Non, tout simplement, j'avais le choix de partir soit sur Montpellier, sur un poste de numéro 3, soit venir sur un club de Fédéral 1, donc Vannes ou le SA15. Et j'ai eu l'option du SA15 parce que l'approche avec le staff Renaud Gourdon et Julien Layel s'était très très bien passée, ressemblait beaucoup plus au jeu que j'apprécie jouer et aussi à l'approche avec la présidence à ce moment-là.
Le S15, c'est une belle histoire quand même avec une belle tranche de vie sportive. Est-ce que tu peux nous faire un tableau de ce qui s'est passé pendant tes années donc au SA15 qui, si j'ai bonne mémoire, vont de 2014 à 2019, c'est ça?
C'est ça, je pars donc le 31 décembre 2019 pour partir sur Dijon le 1er janvier.
D'accord.
Donc pour faire un petit récapitulatif de tout ça, donc une arrivée donc juillet 2014, ben passé du monde, on va dire, même si je m'entraînais avec les pros à Clermont, là c'était rentré pleinement dans un groupe senior. C'est vrai que lorsqu'on est espoir, on est toujours un petit peu jeuneau, on a toujours un petit peu cette fougue, donc il a fallu s'adapter à ce niveau de jeu, se rentrer aussi pleinement dans beaucoup de changements, hein, parce que c'est vrai qu'à Clermont on avait vraiment tout ce qu'on voulait. Lorsqu'on arrive dans un club comme l'US15 qui est en pleine construction, ben il fallait qu'on se déplace entre le RIMA et le stade Chanzy pour aller à la musculation. Il y a plein de petites choses comme ça qui changeaient, donc il a fallu s'adapter à tout ça. Et c'est vrai que on n'a pas l'impression, mais c'est des petits changements qui peuvent bouleverser au début. Sûr. C'est vrai qu'on se demandait un petit peu où est-ce qu'on met les pieds, mais quand on voit ce qui est arrivé sur la fin, ben voilà, c'était un très très bon choix. Donc un début de saison où j'étais plus sur un poste de demi de mêlée. Il y avait Adrien Ayestaran qui était implanté, qui faisait des grosses saisons sur le SA15. Donc il a fallu que, entre guillemets, je prenne patience jusqu'au match de Rodez qui est donc le 8e match de la saison. Où donc le staff me donne sa confiance pour jouer en tant que numéro 10, et c'est notre première victoire à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, si je me rappelle bien, on n'a plus perdu un match jusqu'à au quart de finale d'accession contre Nevers, où on perd 25-23 à domicile et on fait 9-9 à Nevers.
Comment tu as pu t'adapter facilement d'un poste de demi de mêlée à un poste de demi d'ouverture?
J'ai toujours jonglé sur ces postes-là, 9, 10, 15, donc d'accord. C'était pas. J'ai beaucoup joué en 9 au sein des espoirs et des catégories jeunes de Clermont, mais certaines fois sur les entraînements professionnels, on nous demandait de combler, donc parce qu'il manquait un 10, il manquait un 15, donc c'est vrai que nous on s'adapte et on est là aussi pour aider à ce que l'équipe qui va jouer le week-end puisse s'entraîner correctement, donc c'était pas quelque chose qui me dérangeait, on va dire que ça m'allait bien, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, beaucoup 10-15 et beaucoup moins 9.
D'accord. Tu avais les deux pieds ou...
Oh non, non.
Non.
Gaucher.
T'es gaucher uniquement, ouais, bravo.
Gaucher.
Gaucher, pur gaucher, donc d'accord. Donc le SA15, c'est 99 matchs et 557 points.
Ça doit être ça, c'est ça.
Voilà. C'est ça, donc je me suis bien renseigné, je suis allé
voir
la biographie.
C'est vrai qu'on peut... Il y a plusieurs sites, donc c'est vrai qu'il y avait 599 sur All Rugby, je crois, et sur It's Rugby, c'est 557, c'est ça. 99 matchs.
Donc ça fait quand même 5 points par match, ce qui est loin d'être anecdotique.
Je dirais que sur un poste de buteur, c'est vrai qu'on a beaucoup de points. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est est-ce que ces points-là ont apporté beaucoup au match et aux victoires surtout.
Et puis l'aventure se termine avec le SA15 en décembre 2019, c'est ça?
Décembre 2019, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques années avant. Donc il y a eu l'année de la montée, l'année de la montée en 2016, où une saison, on va dire, extraordinaire humainement et sportivement. On avait.
C'est l'année où vous avez été invaincu.
Non, ça c'est l'année de
Fédéral 2.
De la montée en Fédéral 2, donc l'année 2015-2016, où une année sportive humaine et humaine donc incroyable, avec un groupe de joueurs clairement incroyable. Il y avait une osmose entre nous qui était clairement, et c'est le mot, magique. Puis cette première année de Pro D2, avec un début de championnat, quand tu montes de Fédéral 1, que tu vas au Unax sur le premier match...
Ça pique.
Eh bien, ça pique, mais c'est vrai que, à l'image de la saison précédente, on était vraiment un groupe de copains. Alors, je le dis toujours, c'est cette année de Pro D2 là, c'est une équipe de Pro D2, mais avec un mental de Fédéral 3. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on n'avait pas les compétences sportives de certaines équipes, on n'avait pas toutes les infrastructures de certaines équipes, mais alors on avait une cohésion et un mental où... Comme on le dit, on le répète toujours lorsqu'on se croise, on pouvait partir à la guerre partout, on savait que les uns pour les autres, tout le monde allait mourir sur le terrain, quoi.
Ça s'explique ou pas, cette osmose entre le groupe, ou est-ce que c'était lié au coach qui a su trouver des mots, ça s'est fait comme ça entre vous?
Déjà le premier point, voilà, c'est toute franchise entre les coachs et les joueurs, tout était dit, il y avait pas de Il y avait pas que, on va dire, comme j'aime bien dire, de Snake, c'était voilà, si t'étais bon, t'étais bon, si t'étais pas bon, tu savais que t'allais à la vidéo, ça allait piquer. Donc par rapport à ça, Julien Rémy était très très fort. On avait aussi Pierre Sago qui part sur Lyon la saison prochaine, qui nous a tous transformés clairement, parce que on était comme dirait Sébastien Loué, des joueurs un peu épais comme des criquets asthmatiques. Donc il nous a vraiment transformés. Donc il a vraiment fallu qu'on travaille énormément sur toute cette partie physique pour se développer à ce niveau de la Pro D2, où les temps effectifs étaient considérables, contrairement à la Fédéral 1 où il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup d'attentes entre le jeu de conquête. Et là, Pro D2 va beaucoup plus vite, donc il a fallu qu'on s'adapte à tout ça. Et c'est vrai que ce début de saison au Yonax, puis derrière on reçoit Vannes, on fait première victoire en Pro D2 21-20, et on va à Biarritz, on gagne 21-20. On reçoit Montauban derrière, on gagne encore, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et au bout de 15 journées, on se retrouve 4e au classement, et quand on monte de Fédéral 1, on savait pas trop où, même nous on était agréablement surpris.
Tu vas garder un souvenir indélébile de cette période-là.
C'est la plus belle saison, je pense que c'est la plus, depuis que je suis passé vraiment dans le monde senior, c'est la plus belle saison que j'ai vécue.
D'accord.
Autant humaine que sportive, même si on a une phase retour qui a été beaucoup plus compliquée, et on valide le maintien contre Carcassonne sur l'avant-dernière journée, donc on valide le maintien, mais voilà, on avait validé tous les objectifs du club. Humainement, il n'y avait rien à dire, on avait un groupe incroyable, ça s'est vu sur le stage de fin de saison aussi.
Tu vas quitter le SA15 pour rejoindre en mai 2020, pardon, l'UBJ en tant que joueur et chargé de la communication, pardon.
C'est ça. Donc je quitte le SA15 donc le 31 décembre pour rejoindre Dijon sur un contrat de 6 mois.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, je m'étais blessé moi en 2018 gravement.
Donc, alors raconte ce qui s'est passé.
Donc à la sortie, juste avant le match contre Montauban, qui était la troisième journée, à l'entraînement, on va dire au mauvais endroit au mauvais moment, 5 ruptures de ligaments, fracture tibia péronée, fracture de la malléole et rupture partielle du tendon d'Achille. Donc comment on pourrait dire, j'avais fait la complète. Donc,
ah ouais, parce que là, c'est difficile d'imaginer pire quand même. Donc comment tu l'as vécu ça?
Je dirais que le chirurgien avant l'opération m'avait clairement dit, le rugby professionnel c'est fini, donc derrière, avec une attente de 4 mois et demi pour partir sur le terrain, j'avais compris que je serais plus le même joueur.
Tu l'as accepté facilement ou tu t'es dit bon c'est la vie
C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est vrai que
il y a un manque.
Lorsqu'on est rugbyman pro, on vit pleinement pour le rugby, on fait tout pour le rugby, et à partir du moment où on va dire c'est pas les instances du rugby qui vous disent on ne te garde plus au club ou quelque chose comme ça, et que c'est vraiment le contexte médical qui, ça va être compliqué de rejouer au rugby pro, ça a été assez compliqué, mais bon, il a fallu s'y faire. J'ai voulu terminer la saison parce que je suis un peu dur, donc je me suis dit je vais terminer la saison, je vais retrouver mon niveau, je vais lui faire comprendre qu'il s'est trompé sur ce qu'il m'a dit, mais il s'était pas trompé.
Il avait raison, d'accord. Tu étais préparé à cette éventualité, donc à redescendre, à ne plus être joueur de rugby professionnel?
Avant la blessure, non, pas du tout. Je vous dirais que j'avais même stoppé mes études, j'avais tout stoppé. Et c'est à partir du moment où donc je me blesse que là, je me pose des questions et je me dis, c'est bien beau le rugby, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir l'appel de Vincent Audouin, qui m'appelle, parce que j'avais aussi le souhait de revenir en Charente. Ma femme est originaire de Charente, donc de revenir en Charente, et Vincent Audouin donc m'appelle pour me dire la Fédérale 2, donc c'est pas la Pro D2, il y a moins de vitesse, tu peux continuer à jouer au rugby, et moi je te permets de prendre donc toute la partie commerciale, responsable commercial au sein de l'UBJ. Il y a tout à créer, c'est une feuille blanche, donc à toi de tout créer. Donc j'ai accepté cette proposition, et s'en est déroulé derrière quelques années.
Comment ça s'est passé? T'avais une formation pour pouvoir faire un travail en lien avec le commercial, ou t'avais fait des études peut-être qui se rapportaient à ça?
Pas du tout.
Donc t'es parti d'une feuille blanche, là.
Voilà, je suis parti clairement d'une feuille blanche, j'ai beaucoup recherché, puisqu'on était j'avais donné mon accord au mois d'avril, donc on était encore en Covid, donc j'ai beaucoup cherché pendant un ou deux mois le temps que j'étais à Dijon pour essayer de créer donc un référentiel, de voir un petit peu ce que ça représentait en termes de prix hors taxes, TTC, de comprendre tout ce système là. Et après j'avais suivi toute ma jeunesse, donc mon père qui est maquignon sur maquignon en bestiaux bovins, donc j'ai essayé de me rappeler un petit peu comment
fonctionnait le commerce.
Voilà, c'est ça.
Et donc à l'UBJ, donc dans un premier temps joueur et on va dire cadre commercial, et depuis donc tu as toujours ces fonctions de cadre commercial ou tu les as laissées de côté?
Du tout. À partir de donc janvier l'année dernière, donc j'ai continué toujours le contexte commercial et commencé à préparer donc ce nouveau rôle de manager au sein de l'UBJ sur le point sportif et cette année pleinement sur tout le contexte sportif.
La saison, elle se passe comment alors pour le moment?
On fait un bon début de saison. On fait un bon début de saison, donc avec une victoire à Riom-Morsinx. Derrière, on bat Oloron, donc à Jonzac, où un match, on va dire, qui est serré, mais qui aurait pu être largement en notre faveur, 31-29. Derrière, on va à Saint-Médard et là, clairement, bon, on prend une belle rouste. On avait pris une leçon de rugby. Ce match-là, je le prends clairement pour moi parce que sur les deux premiers matchs, j'avais fait très peu de turnovers et j'avais voulu donner une chance à tout le monde. On était sur le troisième match du bloc et c'est vrai que c'était pas forcément une chance parce que Saint-Médard, qui était quand même une équipe, certes l'année dernière reléguée, mais qui avait fait un gros recrutement, donc. J'avais pas mis en condition ces joueurs-là pour rentrer pleinement dans un match de fédéral 1.
D'accord.
Puis derrière, donc, on reçoit Tyros, donc qui descend de National 2, parce que c'est vrai qu'on a, dans la poule, donc on a deux clubs de National 2 qui sont descendus, on a qu'un seul club qui est monté, même si Saint-Médard et Tulle étaient relégués la saison dernière, mais ce sont des clubs qui étaient sur la fédérale 1, donc il y avait déjà cette expérience. Et on reçoit Tyros, donc où on fait sûrement le meilleur match de la saison, on gagne 31-17, on fait un gros match sur tous les secteurs de jeu. On va à Nafarroa où à la 66e minute on gagne 27-20, on perd 42-27 sous. Il y a eu un trou d'air, c'est un trou d'air basque.
D'accord.
Basque, quand vous allez jouer dans des clubs historiques, certaines fois c'est ni l'équipe adverse ni vous-même qui peuvent changer la physionomie du match.
Donc ça a été viril mais correct.
C'est ça.
Chers auditeurs, vous écoutez Attitude, c'est votre radio, 98.3, 90.7, www.attitudefm.com, pour suivre votre émission Culture Sport, c'est chaque lundi à partir de 19h10. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Ric Lombard, manager de l'UBJ, et qui va répondre au feu croisé des questions de Dédé. Dédé, c'est à toi.
On approche de la fin de saison. Au regard du classement, je crois que vous êtes 8e ou 9e.
9e.
9e, pas très loin de la qualification. Je crois que c'est 8 points.
Donc actuellement 9 points, 9 points donc du 6e avec un match en retard.
Il y a deux relégables, hein, je crois.
C'est ça, tout à fait.
Où ça pêche, c'est en défense, c'est en attaque, c'est en mêlée.
Je dirais que pour définir un petit peu la saison, donc on est parti sur un début de saison où on était clairement la meilleure attaque sous les beaux jours. Sur les 6 premiers matchs, on est à 31 points de moyenne par match. Donc un début de saison clairement positif. Derrière, donc on a 4 déplacements où on prend 40 points. 40 à Saint-Médard, 40 à Nafarroa, 40 à Oloron, 40 à Tyros, les deux derniers sur le mois de janvier. Je dirais que on a été propre à domicile. On a une défaite contre Peyrorade à domicile, mais on a été propre à domicile. C'est plus l'état d'esprit qui a été, on va dire, en dents de scie. À domicile, on a un état d'esprit qui est irréprochable. À l'extérieur, on va dire, on est nonchalant.
Ça vient de quoi?
Ça vient de quoi? C'est des questions que je me pose. Ça vient de quoi? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on met en place à domicile? Mais un peu à l'image de ce week-end, on doit sur la première mi-temps finir à 14-6 pour nous. On se retrouve à 6-0. Puis derrière, on a un trou d'air sur les 20 dernières minutes où le banc n'apporte pas ce que je voulais qu'ils apportent.
Pourtant, il y a eu l'intersaison, vous avez fait des recrutements.
Oui, tout à fait. On a fait des recrutements précis parce que ben, on voulait avoir une conquête propre, ce que l'on a cette saison. Et je remercie encore Chalva Soutiachvili et Victor Paquet pour le travail qu'ils apportent. On a fait un recrutement précis donc sur ces premières lignes, sur ces secondes lignes. Il nous manquait donc derrière un joueur qui allait nous apporter un peu plus de leadership et de puissance donc en Jensdorf. Mais quand on regarde vraiment toute la saison, on n'a jamais pu vraiment mettre notre 15 titulaire au même moment entre les blessés, voilà, les suspendus. Donc il n'y a pas à chercher d'excuses dans tout ça, mais c'est vrai que ça peut y jouer aussi. Ça peut y jouer.
Donc votre place correspond actuellement sur cette saison.
Je serais pas forcément d'accord. Je serais pas forcément d'accord parce que je pense que il nous manque ce match de Peñarol à domicile. Il nous manque deux matchs qu'on aurait dû clairement gagner, Mauléon et Nafarroa. Donc et il nous manque aussi des points de bonus défensifs, mais cela autant Mauléon et Nafarroa, j'ai beaucoup de regrets, autant les 4 fois où on a pris 40 points, mais je les assume complètement.
Le projet c'était au moins de se maintenir cette saison, ou il y avait peut-être à voir au-dessus.
Le projet du club était tout simplement de valider un maintien le plus rapidement possible et de faire mieux que la saison dernière. Nous, le staff et les joueurs, on s'était dit, ouais, le top 6, c'est vraiment notre projet, parce qu'on voulait aller chercher, ça. Je serais, on va dire, ça serait dur de vous dire qu'on va être dans le top 6, mais oui, il faut se le dire, ça va être compliqué d'aller chercher le top 6. Je pense qu'avec les 3 réceptions à domicile qui nous restent.
Quels sont les matchs à venir?
Nantes et Mauléon. Je pense qu'on est dans la possibilité d'aller chercher beaucoup de points sur à domicile si on est capable de garder l'état d'esprit qu'on met en place depuis le début de saison et essayer d'aller accrocher quelques points pour être le plus haut possible. Je pense que ce qui va arriver, on aura sûrement, comme j'aime bien dire, la place du con, la place du septième.
Il y a un effectif de combien de joueurs pour cette saison et peut-être pour la saison à venir, mais bon.
Alors pour la saison actuelle, donc on était parti sur un effectif de 38 joueurs. Sur ces 38 joueurs, 36 ont joué sur la saison. 8 espoirs ont intégré l'effectif, et ce sont des joueurs qui ont purement gagné leur place au sein du groupe.
On peut en parler un petit peu de l'espoir, parce que il y a d'excellents résultats. Je pense que on peut en parler parce que c'est aussi l'avenir du club.
Tout à fait. Donc les espoirs. Donc faut féliciter le travail de Bastien Bisserier qui fait un gros travail depuis qu'il est au sein de l'UBJ. Avec la création de l'école de rugby, derrière la création du pôle jeune, le développement du pôle jeune et maintenant donc le développement de cette équipe espoir. C'est un gros travail. C'est un plan transversal qui est fait entre la Fédérale 1 et les espoirs sur tout le projet de jeu. Les espoirs ont beaucoup plus adhéré à ce projet de jeu de vitesse que la Fédérale 1. Il avait fallu mettre un peu plus de temps. Mais que des félicitations à ce groupe qui a un état d'esprit irréprochable et à côté au travail qu'il propose.
C'est-à-dire que les espoirs, quand vous vous déplacez, jouent contre la même équipe que vous allez jouer en Fédérale?
Non, du tout. Les espoirs jouent donc les. Alors, pardon, j'ai pas compris. Lorsqu'on va jouer à Peñarol, il y a les espoirs de Peñarol.
Voilà, c'est ça. Alors, tout à ma question était celle-ci. Peut-être que je l'ai mal posée aussi. Oui, là, ils sont confrontés quand même avec des clubs qui ont de l'expérience aussi.
Tout à fait. Des clubs qui ont des bassins rugby beaucoup plus forts que les nôtres. Lorsque vous allez à Nafarroa, à Mauléon, on posait un petit peu la question donc aux gens là-bas. Il y a un club quasiment tous les 15 kilomètres. C'est beaucoup plus facile. Ils ont une plus grosse quantité de joueurs. Et ce sont des joueurs qui entre guillemets ont cet état d'esprit du club et sont là depuis leur jeunesse. Nous, à contrario, c'est vrai qu'avec ce bassin rugby, il faut qu'on aille chercher des joueurs à l'extérieur parce qu'on n'a pas assez de joueurs pour compléter tous les clubs charentais.
Mais avec les espoirs là, peut-être il y a des espoirs pour l'équipe Fayon.
Tout à fait. C'est le but du club d'incorporer le plus d'espoir au fil des saisons pour que vraiment construire une équipe à 70%. comme on voudrait le dire, charentaise ou charentaise maritime.
C'est ça qui est, d'ailleurs ma question a porté justement sur ces espoirs. Ils sont vraiment de la Charente?
Il y a, je dirais, 97-98% qui sont originaires de la Charente.
Comment vous comptez faire pour pouvoir les garder? Parce que une fois qu'ils ont eu leur bac, donc c'est l'évasion vers les villes universitaires, c'est-à-dire Poitiers, Bordeaux, Limoges,
La Rochelle.
Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus?
C'est un petit peu le plus gros problème qu'on a au sein de l'UBJ, c'est tous ces joueurs, donc moins de 16, moins de 19, qui partent vers les villes universitaires, donc partent pour 2-3 ans. Mais à contrario, il y a, comme on aime bien dire, le cocon familial ramène toujours un peu à la raison. Donc du coup, la plupart de ces joueurs reviennent sur Barbezieux pour travailler, ou dans le secteur Angoulême, Cognac, Bordeaux, reviennent dans ce secteur-là, et donc reprennent une licence à l'UBJ, et rentrent donc dans cette catégorie espoir.
D'accord, donc il y a des partenariats avec des entreprises locales pour pouvoir générer des emplois au sein du club?
Tout à fait, il y a énormément de liens entre les entreprises et le club.
C'est commercial, Barbezieux c'est très commercial.
Donc il y a l'entreprise Fornel, je suppose.
Oui, je vous dirais qu'il y a 90% des entreprises de Barbezieux qui sont partenaires au club.
D'accord.
C'est vrai qu'à Barbezieux, quelles que soient les activités sportives, tous les commerçants, les artisans vous soutiennent au niveau associatif. On a bien compris que ça sera compliqué de se qualifier, quoique c'est encore possible. Et sur la suite, donc, pour la saison prochaine, puisque déjà, quand la saison commence à se terminer, on se penche sur la saison à venir.
Tout à fait.
Alors on en est où, Jean?
Donc pour la saison prochaine, donc j'ai acté mon départ donc vers d'autres cieux. Donc pour l'instant on ne connaît pas donc le manager donc de la saison prochaine au sein de l'UBJ, mais voilà, le projet restera le même. Le but est de faire éclore le plus d'espoir possible pour avoir vraiment cette équipe à 70% charentaise et charentaise maritime. Je souhaite bon courage à la personne qui va me remplacer, et bonne chance dans ce projet.
On peut peut-être savoir où tu vas ?
Non, je pense pas.
Pour l'instant, je vous dirais que j'ai pas pris de décision. Je suis, cette semaine là, j'étais en déplacement hier sur un club. J'ai des visios avec d'autres clubs, donc la prise de décision n'est pas faite, mais elle sera faite sous 15 jours, 3 semaines.
Elle est respectable. Quel souvenir que vous garderez de Barbezieux Jonzac ?
Un souvenir humain. Humain, parce que j'ai retrouvé, on va dire, quand on est passé dans le secteur professionnel, on est beaucoup dans la lumière. On est beaucoup dans la lumière. Lorsqu'on retombe dans les échelons inférieurs, on retrouve beaucoup plus ce contexte humain. Et ce contexte humain, tout d'abord, ce premier appel de Vincent Audouin que j'ai trouvé, qui m'a emballé. Derrière, ces premiers rendez-vous commerciaux où c'est que je suis tombé sur des personnes, adorables. Pourtant, lorsqu'on vient chercher de l'argent dans une entreprise, c'est toujours compliqué. Mais voilà, il y a eu ce lien humain avec les partenaires, il y a eu ce lien humain avec les bénévoles, et derrière, on a pu construire sur 2 ou 3 ans quelque chose qui est assez sympa.
Pour la saison prochaine, celui qui sera à votre place, voilà, le travail, le plus gros du travail a été fait.
Non, je dirais que non. Le plus gros du travail n'a pas été fait parce que...
Je parlais d'espoir, parce que on pense évidemment à ceux qui vont s'en aller, ceux qui malheureusement vont partir en retraite, et évidemment, espoir, ça veut dire l'avenir de Barbezieux Jonzac.
Sur cette partie-là, oui, c'est déjà une passation qui sera beaucoup plus facile, donc avec un groupe espoir donc qui va se qualifier, donc qui a déjà cette expérience et qui va monter en puissance au fur des années. Derrière, après, il faut savoir un petit peu comment va gérer le nouveau manager son nouveau projet. Est-ce que c'est une suite à ce que on pouvait proposer ou non? Voilà, il y a plein de petits points d'interrogation, mais ça sera à lui de mettre tout ça en place.
Vous resterez jusqu'à la finale, si la finale il y a, au niveau des espoirs?
Je suivrai les espoirs jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. C'est-à-dire que départ, ça serait
début juin, ça serait très bien avec un bouclier.
Ouais. Ah oui.
C'est envisageable ou pas?
Pour moi, je pense qu'ils ont la capacité, si ils ont la capacité d'aller chercher un bouclier, d'aller très loin. À eux de prendre conscience du collectif qu'ils ont, de prendre conscience aussi que des phases finales, ça se joue à fond, que ce sont des matchs couperés, ce ne sont pas des matchs aller-retour, donc de mettre en place toute cette expérience qu'ils ont pu accumuler sur la saison, et surtout de prendre du plaisir.
On connaît un petit peu les équipes qui pourraient être sur le chemin.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ça sera donc des équipes de la poule 3, donc la poule Occitanie.
Donc c'est un peu plus loin, à droite, au sud.
C'est un peu ça. Donc, actuellement, à ce jour, ça serait le FCTT, donc le Football Club Touek, qui est Toulouse même.
D'accord, ok. Ah d'accord. Oui, le Touek.
Alors, c'est pas le Touek, c'est juste à côté du Touek, c'est le FCTT.
Quand vous allez quitter Barbezieux, évidemment, le plus tard possible, ça voudra dire beaucoup de choses. Il y a certainement des personnes avec qui vous avez parlé d'Audouin, mais il y a d'autres personnes qui sont voilà que vous allez laisser un petit peu avec quelques regrets.
Ça, on pourra voir ça plus tard hein, s'ils ont des regrets ou non. Oui, il y a des personnes qui vont me manquer. C'est vrai que lorsque j'ai construit toute la partie commerciale, donc avec Yannick Jalajas, donc qui est clairement bénévole au sein du club, mais qui est responsable des buvettes, mais on a mis tout ça en place derrière. Donc Roger Hadou aussi, qui est le président du club, qui est tout le temps là pour nous aider, développer, récupérer un petit peu les pots cassés et les gérer. Donc non, il y a énormément de personnes qui vont me manquer, mais je reviendrai au club pour regarder les matchs.
Ah, vous reviendrez quand même au club pour voir les matchs.
Bien sûr.
Les structures, au niveau structure, bon, moi je connais bien le terrain de rugby de Barbezieux.
Bah clairement c'est le point négatif.
Ouais.
C'est le point négatif, donc avec des vestiaires qui sont. Des vestiaires qui sont extrêmement petits, hein. Des vestiaires qui sont extrêmement petits, donc derrière donc une tribune qui n'est pas aux normes. Le club fait énormément avec la création de la bodega, c'est 300 mètres carrés qui permet aux partenaires d'être présents, d'avoir cette terrasse qui permet de surplomber le terrain et de pouvoir regarder les matchs, mais les infrastructures, oui, pour l'instant c'est le point négatif de l'UBJ.
Il y a des projets à ce niveau-là, Jean?
Oui, il y a des projets, donc avec la création d'une salle de musculation, avec des vestiaires, avec un terrain synthétique. Donc oui, il y a vraiment des projets qui se feront sur le futur.
Et donc, on n'a pas de date fixée pour le début des travaux
ou... Il faut que ça passe au conseil municipal. D'accord.
Alors, c'est déjà passé au conseil municipal.
Ça a été validé.
Mais quand est-ce que ça arrivera? Ça devait arriver au mois d'août.
C'est toujours pas arrivé.
Je dirais que je les ai pas vus.
D'accord, ok, bon, bah, on va se montrer patient alors.
Oui, parce que pour accueillir même le public hein, qui vous suit, 900 000 spectateurs hein, quand vous jouez.
Tout à fait, tout à fait.
Ça,
tout
c'est
à
impressionnant.
Fait,
ouais. Hein.
C'est, on a la chance d'avoir un bénévole qui regarde vraiment tous les articles de rugby et qui m'a fait la comparaison. L'UBJ, c'est la quatrième affluence de la poule.
Ouais, c'est bien.
Donc par rapport à des clubs historiques comme Tulle, Mauléon, Peyrorad, Nafarroa, alors... Je vous dirais que les trois premiers sont Peyrorad, Nafarroa et Tulle, et le cinquième est Nantes. Donc Nantes qui a une des plus grandes tribunes de la poule avec un complexe sportif assez impressionnant. Et j'ai même vu qu'ils avaient signé un bail antiféotique de 15 ans pour pouvoir tout améliorer et avec un gros projet pour l'avenir.
Mais avec Jonzac, comment ça se passe entre Barbezieux et Jonzac? Parce que vous entraînez sur un terrain, c'est sur quel terrain que vous vous entraînez?
Alors on s'entraîne sur Barbezieux, mais on va dire 60% des matchs se jouent sur Barbezieux et 40% se jouent sur Jonzac.
Et vous préférez Jonzac ou Barbezieux? C'est sur le niveau public, hein, parce que c'est toujours pareil.
Alors là, clairement, oui, Barbezieux a beaucoup plus de public que Jonzac. Jonzac est plus, on va dire, une ville...
footballistique peut-être.
Non, curiste, qui est beaucoup sur les curistes.
C'est ça.
Donc beaucoup moins sportive, mais beaucoup beaucoup dans la culture.
Ouais.
Culture, développement touristique, avec ça, les termes. Ouais. Donc les gens viennent pour voir comment se développent les termes, viennent aussi pour prendre du bon temps avec les termes. C'est vrai qu'on n'a pas un gros public sur Jonzac.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean?
Le problème, c'est qu'avec Jean, on ne sait pas où il va, donc c'est compliqué.
C'est pas grave,
on sait qu'il nous qu'il vient du Cantal et il nous a pas emmené de fromage, donc
ça peut toujours arriver.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jean?
La santé.
Oui, d'abord, ouais, c'est vrai, c'est important.
La santé de tout le monde, et après on verra où.
Quand on a la santé, tout va bien.
Voilà.
Parfait.
Dans tous les cas, Jean, on aura l'occasion de se revoir, puisque de temps en temps, vous viendrez à Barbezieux voir les copains, bénévoles.
Tout à fait.
Les bénévoles qui œuvrent beaucoup tout au long d'une année, qui organisent aussi des manifestations, peut-être, non?
Tout à fait. Donc,
on peut en parler.
Ah ben, on peut en parler. On peut en parler parce que, ben, on va dire que 80-85% des entraîneurs de l'école de rugby sont des bénévoles. C'est à peu près la même chose sur le pôle jeune, donc qui encadre. Donc, ce sont pas que des bénévoles, mais énormément de bénévoles. On a aussi les bénévoles qui viennent donc sur les jours de match seniors, donc entre la buvette, la boutique, le food truck, les entrées. Donc non, il faut les féliciter, et je les félicite très très fort parce qu'ils ont grandement aidé le club à se développer, et ils sont pas là pour faire du one shot comme on dit. Ils sont vraiment là sur tous les matchs, que ça soit Barbezieux ou Jonzac.
Il y a des manifestations que vous réalisez. Bon, là je parle au coach, mais voilà, il y a des lotos, des ça fait vivre aussi le club.
Oui, alors des lotos, non, ça c'est plus l'association des joueurs. Je pense qu'ils devraient développer ce secteur-là. Il y a déjà beaucoup de matchs à la saison entre les moins de 16, les moins de 19, et les espoirs et la F1. Donc,
je vous coupe. Il y a combien de licenciés en tout ?
Pas loin de 450.
Ah oui.
Ah oui, quand même.
Ça, non, on l'avait oublié.
Ouais.
C'est important.
C'est ça.
Petite ville de 7 à 8 000 habitants.
Barbezieux, ouais, ça
doit être ça. Les deux ensemble.
Les deux ensemble.
Barbezieux et Jonzac,
ouais,
c'est ça.
On est ensemble. Ouais. Enfin, je prends les deux, puisqu'il y a une entente.
Tout à fait.
Je sais que l'UBJ est un club solidaire aussi, donc il y a des choses qui sont mises en lien avec la chirurgie cardiaque pour les enfants.
Tout à fait.
Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Donc ça c'est Vincent donc qui m'avait lorsque je suis arrivé qui m'avait dit voilà chaque année on reverse donc on avait fait la première année donc 1,10 € donc pour les liens du cœur donc on avait mis en place ce partenariat là et donc tout simplement ça a représenté je me rappelle plus 4 ou 5 000 euros donc sur l'année
c'est pas neutre
qui avait été reversé donc à l'association les liens du cœur
5 000 euros que j'avais vu
quelque chose comme ça j'ai plus le chiffre. Et cette année, donc du coup, il y a toujours ce partenariat avec les liens du cœur, mais on a aussi voulu avoir le développement RSE. Donc c'est un essai de l'équipe de Fédéral Une avec un arbre planté chez un partenaire du club.
Et il y a aussi donc quelque chose qui est fait pour l'AMNS, qui est un syndrome médical aussi.
Tout à fait. Donc on a tout simplement invité sur un entraînement donc Fédéral Une, donc un groupe d'handicapés qui est venu assister à l'entraînement, qui est venu nous poser aussi des questions, comment on pouvait s'entraîner, quel plaisir on avait au rugby. Et nous, en retour, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous venez chercher au rugby? Donc on a eu pas mal de réponses qui étaient assez intéressantes, et ils viennent du coup maintenant sur quasiment tous les matchs.
Ça c'est bien, c'est un bel exemple d'engagement solidaire et social, c'est vraiment important. J'avais noté aussi, oui, une question peut-être.
Oui, j'avais une question en ce qui concerne le regard de Jean pour la composition de l'équipe. Sur donc les espoirs, j'ai bien compris qu'il y avait quelques espoirs qui avaient gagné leur place ou qui étaient susceptibles de jouer en fédéral. Voilà, ma question était puisqu'il y a quand même 400, bon, il y en a un petit peu moins au niveau des seniors et des espoirs, ça fait une totalité de combien de joueurs, et comment vous pouvez en semaine vous vous organisez comment pour composer l'équipe, que ce soit espoir et que ce soit senior.
Tout d'abord, donc 77 licenciés sur la Fédéral Une et espoir. Comment ça se décompose?
Oui.
Donc tout simplement, moi sur la Fédéral Une, donc je formate le groupe donc de 25 joueurs qui risquent d'être sur la feuille de match le lundi. À partir de l'entraînement du mardi, donc j'en redescends à 23. Là, je rentre en lien avec Bastien Bisserier, qui est le manager des espoirs, avec les joueurs dont j'ai besoin qui jouent ce week-end, parce qu'ils risquent de jouer le week-end d'après. Et après, donc Bastien complète par rapport à tout ça. On n'a jamais une grosse descente de joueurs parce que tout simplement, les espoirs s'entraînent eux aussi, donc on veut pas les embêter dans, comment dire. C'est pas embêté, mais c'est un joueur qui s'entraîne, qui ne joue pas et qui voit descendre tout le monde. Au bout d'un moment, il va se dire ouais, j'en ai marre et je m'en vais.
Moralement,
c'est tout à fait ça, c'est usant. Donc tout simplement, il n'y a que 2 à 3 joueurs qui descendent. Certaines fois aucun, certaines fois un petit peu plus parce que les espoirs ont besoin de certains joueurs à certains postes. Mais voilà, la priorité c'est formater donc le groupe Fédéral Une, puis derrière garder les espoirs pour formater ce groupe espoir tout en y incorporant donc des plus-values des joueurs Fédéralune ou des joueurs qui reviennent de blessures, voilà, pour qu'ils reprennent du temps de jeu pour derrière repasser le cap sur la Fédéralune.
Vous écoutez Attitude, c'est votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm.com pour nous suivre partout en France. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi à partir de 19h de 19h10. Merci de votre fidélité. Nous recevons aujourd'hui Jean-Ric Lombard, manager donc de l'UBJ, qui répond aux questions croisées, au feu croisé des questions de Dédé et de votre serviteur.
Deux descentes, hein, j'ai regardé le classement. Bon, je pense que là, vous êtes pas, vous serez pas concerné par la descente. Vous allez essayer, si j'ai bien compris, d'obtenir cette sixième place qualificatif. C'est pas gagné, mais c'est faisable.
Je vous dirais qu'on joue au rugby pour gagner les matchs. Donc,
exactement.
Déjà le premier point, oui, donc le oui, le maintien est purement validé. On aurait pu se donner d'autres moyens d'aller chercher la qualification avec une victoire à Tulle, certes perdue 17-14. On était parti sur Peyrouade avec des ambitions. Seule équipe à être venue actuellement venue gagner donc sur nos terres. On fait, comme je vous l'ai dit, un bon début de match, puis derrière, on a un trou d'air sur les 20 dernières minutes. Maintenant, il faut penser à la suite. Donc, penser à la suite, c'est tout simplement... Et nous, on jouera Nantes, donc, qui est premier au classement, qui devra venir chercher des points chez nous pour garder ses deux premières places, et Mauléon, qui jouera sa qualif chez nous. Donc,
d'accord.
On fera pas de cadeau.
C'est faisable, hein.
On fera pas de cadeaux. Là, on a beaucoup parlé des autres. Si nous, on arrive à sortir 4 prestations solides, on pourra... Peut-être, mais les clubs ont un petit peu d'avance quand même.
Les deux premiers, c'est logique dans le classement, hein.
Nantes-Peyrouade, oui, tout à fait.
C'est tout à fait logique.
Ouais. Tout à fait, tout à fait.
Surtout que vous faites un bon match contre contre Peyrouade.
Ah mais on fait clairement 60 minutes, 55 minutes de qualité. Puis derrière, on a 25 minutes où 4 sorties de camp, 22 points. Donc
ça fait mal, ouais.
Ouais, ça fait mal.
Très mal.
Ouais. Ouais, ça fait mal.
Ce ne sont pas des points qu'ils ont créés, c'est vraiment nous, entre guillemets, 4 sorties de camp, 22 points.
Ouais.
Bien.
Bon, Nantes, on voit que c'est homogène, hein, que ce soit... C'est homogène, hein, Nantes, ils sont...
Eh bien, c'est un groupe professionnel, ouais. Donc 2,6 millions de budget juste pour la Fédéralune.
Ouais.
Donc,
bien sûr.
2,6 millions de budget juste pour la Fédéralune. C'est un groupe qui est totalement professionnel, qui s'entraîne donc matin et soir. Pas de plus réactif comme chez nous. Voilà, c'est...
Ce qui est bizarre, c'est de voir des équipes comme Tulle qui vont certainement descendre.
Alors, faut prendre en compte que Tulle était une équipe qui devait déjà descendre la saison dernière, qui a été repêchée, qui fait une saison, correcte, qui fait une saison correcte parce qu'elle a accroché toutes les équipes, mais elle perd tout le temps
de quelques points
ou elle gagne de quelques points.
C'était des équipes qui étaient en Pro D2, hein, si
groupe B.
Qui
était
B,
sur
oui.
Les groupes B,
d'accord.
Sur les. Si vous prenez tout. Mis à part
oui,
Rion,
c'est ce que je
mis
regardais.
À part Rion, ce ne sont que des clubs historiques. Hein.
Ah, mais oui, c'est pour ça que je regardais.
Rion et l'UBJ. Rion et l'UBJ, ce ne sont que des clubs historiques.
Oui, parce d'accord. Que vous, après, vous êtes une petite commune ou une petite ville, quoi. Enfin, historiquement, vous n'avez pas été dans le Pro D2 ou dans
fait.
Le Top 14.
Tout à fait.
Venons d'Aurillac. Quand on parlait 30 secondes d'Aurillac, puisqu'on est dans le Cantal, cette saison, c'est pas très, très florissant.
Oh, ils sont pas mal quand même.
Avant le match à Rouen, ils étaient 6e.
Et oui.
C'est tellement serré, donc. C'est tellement serré dans cette Pro D2 que du coup, de 6e, ils peuvent passer à 11e. Le maintien, donc, pour moi,
est acquis
pour Aurillac. Maintenant, ils ont les cartes en main pour aller chercher le top 6. Il faut prendre en compte qu'il y a 10, 11 équipes qui peuvent aller chercher ce top 6, mis à part les 3 premières qui ont déjà pris beaucoup d'avance. Même Mont-de-Marsan a pris de l'avance, mais voilà.
Oui.
Derrière, il y a 6-7 équipes pour 2 places.
Et en ce qui concerne, avant de se quitter, en ce qui concerne la Pro D2, on va parler du SR15, qui c'est compliqué quand même, hein, parce que derrière, ça joue et ça gagne aussi.
Compliqué. Pour avoir vu les deux derniers matchs à domicile, quand je vois l'état d'esprit qu'ils mettent sur le terrain, compliqué, non. S'ils gardent cet état d'esprit jusqu'à la fin de la saison, le maintien sera acquis. Je pense qu'il n'y aura même pas besoin de passer par le barrage. Maintenant, il faut...
Ce que je voulais dire, Jean, c'est que derrière, ça gagne aussi.
Oui, ça gagne aussi, mais si eux, ils gagnent.
Voilà. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais je vois la remontée de ces Biarritz ou Béziers qui était.
C'est Biarritz.
Qui,
c'est Biarritz,
qui était dernier, qui revient petit à petit sur le S1. Moi, j'ai regardé le match l'autre jour.
Oui, parce qu'ils ont le même nombre de points. Donc, depuis 3-4 journées, ils ont le même nombre de points. À chaque fois que les deux gagnent, ben, ils restent toujours collés. Mais pour l'instant, c'est Montauban donc, qui ne gagne pas. Donc,
ouais, ils sont en plein doute, Montauban.
C'est vraiment serré.
Donc voilà, s'ils gardent l'état d'esprit que j'ai vu contre Valence et l'état d'esprit que j'ai vu contre Aix, je me fais pas trop de soucis pour le SA15. Certes, ils finiront pas dans le top 6, mais ils pourront valider, je pense, un maintien sereinement avant la dernière journée et la dernière réception de Béziers.
Vous avez un regard sur la Pro D2, puisqu'on vient d'en discuter. Peut-être que la Pro D2... Au top 14 bientôt, quand je vois Julien Laherbe que vous avez côtoyé ici, qui est parti à Clermont-Ferrand, je crois.
C'est ça, tout à fait.
Après un passage à l'UBB.
Ouais, à Bordeaux. Mais on l'avait reçu, mais c'est quelqu'un de bien, Julien. Je comprends que aujourd'hui, on puisse parler encore de Julien qui a laissé quand même pas mal de marques autour du terrain Chanzy.
Ben, actuellement, fait monter donc le SA15 de Fédéral 2 à Fédéral 1, de Fédéral 1 à Pro D2, et on a quand même fini 7e et 8e donc sur les deux dernières saisons avant son départ. Donc il a fait un très très gros travail au sein du SA15. Il avait réussi aussi à développer tout ce contexte rugby qui n'était pas connu de la plupart des joueurs qui étaient là en Fédéral 1. Donc il nous a fait énormément développer sur ce domaine rugbystique. Un grand entraîneur aussi, très dur. Mais droit dans ses baskets, ouais, donc ça nous a fait mûrir nous aussi humainement et comme on le dit tous, mais voilà, on a tous progressé avec Julien. Donc
sur les clubs qui seraient susceptibles de vous demander de les rejoindre, c'est quel département
ça, je pense
qui vous plairait.
Ah, qui me plairait.
Oui.
On va dire là où il y a du soleil, ça serait sympa en ce moment.
Jean, on arrive au terme de cette émission. On te remercie donc d'avoir été si convivial, oui. si ouvert, si disert. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc tu es un interlocuteur de qualité dont on se souviendra. On va te souhaiter donc le meilleur pour la fin de la saison qui arrive, le meilleur pour la saison prochaine où que tu ailles. On a tes coordonnées, on te suivra de toute façon. Et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous pour l'émission.
Merci, Jean.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va revenir sur les résultats du et des Charentais ce week-end en commençant par le football en ce week-end Pascal avec des matchs en retard disputés au niveau ligue avec notamment en Régional 2 le match nul de Charente-Limousine du côté de Donzenac 0-0, la victoire hyper importante de Saint-Alex 3-1 contre Échiré et la victoire 1-0 de l'Alliance 3B en Régional 3 en poule. C'est victoire de Ruffec 1-0 contre Otis, défaite malheureusement de La Roche-Rivière contre Couzex-Chapla, défaite 2-1. Victoire de Soyaux 5-2 contre Limoges-Jandouge et enfin la défaite de Vindel 2-1 contre Arsac-Lepian. En district, 3 matchs étaient au programme. Les deux matchs 2 des 2 ont été reportés à cause des conditions météo. Et enfin, le match entre les Portugais du Gond et Merpin a été arrêté en seconde période par l'arbitre. En rugby, le SA15 qui du coup se déplaçait à Grenoble vendredi s'est incliné de peu. Défaite des Angoumoisins 21-18 au terme d'une prestation plutôt aboutie où les Angoumoisins ramènent le bonus défensif. C'est un match que nous avons débriefé avec Fred dans le SA15 Magatitude il y a quelques minutes. En national de défaite de Cognac 24-17 du côté de Marmande. Les hommes d'Adrien Bounonato qui ramènent un bonus défensif. Enfin en Fédéral 1, Barbezieux s'incline lourdement. Défaite de Barbezieux 43-12 du côté de Floirac, l'UBJ donc bah, qui s'incline en Gironde. Enfin, en basket en National 3 masculine, Cognac qui se déplaçait du côté de Tours, défaite de 14 points des Cognacés, défaite 84 à 70 pour des Cognacés qui restent malheureusement en queue de classement. En parlant de Cognac, ce week-end de samedi à aujourd'hui se déroulait l'Open international de Cognac de tennis de table, un tournoi qui fêtait ses 15 ans et qui réunissait 400 pongistes du côté des Vosges. Donc un bel événement organisé par l'UA Cognac Tennis de Table. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash résultat. Bonne soirée, au revoir.